إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، chers et sœurs, on se retrouve ce soir pour continuer la lecture et l'explication du poème Al-Ha'iyah de l'imam Al-Hafidh Abu Bakr Abdullah ibn Abi Dawud rahimahullahu ta'ala. Nous avons vu que dans ce poème, l'auteur rahimahullahu ta'ala nous expose des points fondamentaux de la croyance des gens de la sunna et du groupe. On a vu dans les cours précédents qu'il est obligatoire pour nous de nous cramponner au livre et à la sunnah. Et également, nous avons vu la croyance correcte concernant la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et que le Coran est sa parole et qu'il est incréé. Et également, nous avons vu la croyance authentique au sujet de certains attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme ses deux mains et le fait qu'on le verra dans l'au-delà. Dans les vers suivants que l'on va voir aujourd'hui, incha'Allah ta'ala, l'auteur, rahimahullah, a abordé un sujet très important qui concerne un des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est la descente. En effet, il est venu dans le hadith authentique rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim, rahimahumallah ta'ala, d'après Abu Huraira, radiyallahu ta'ala anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: notre Seigneur descend chaque nuit au ciel le plus bas durant le dernier tiers de la nuit. Puis il dit: qui m'invoque afin que je l'exauce, qui implore mon pardon afin que je le pardonne, qui me demande afin que je lui donne. Ce hadith, comme vous l'avez entendu, est rapporté par les deux imams Al-Bukhari et Muslim, rahimahumallah ta'ala. C'est donc un hadith authentique au sujet duquel il n'y a aucun doute. Et on voit dans celui-ci que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a affirmé de manière explicite que notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala descend chaque nuit au ciel le plus bas. Ceci est donc une preuve évidente de cet attribut. Et c'est ce que l'auteur rahimahullah ta'ala nous a exposé dans ces quelques vers, et il a dit: وَقُلْ يَنْزِلُ الْجَبَّارُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ بِلَا كَيْفٍ جَلَّ الْوَاحِدُ الْمُتَمَدَّحُ إِلَى تَبَقِ الدُّنْيَا يَمُنُّ بِفَضْلِهِ فَتُفْرَجُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَتُفْتَحُ يَقُولُ أَلَا مُسْتَغْفِرٌ يَلْقَى غَافِرًا وَمُسْتَمْنِحٌ خَيْرًا وَرِزْقًا فَيُمْنَحُ رَوَى ذَاكَ قَوْمٌ لَا يُرَدُّ حَدِيثُهُمْ أَلَا خَابَ قَوْمٌ كَذَّبُوهُمْ وَقُبِّحُ. Il dit, rahimahullah, selon les sens rapprochés de ces vers, et dit: chaque nuit, le Tout-Puissant descend, l'unique, le digne de louange, on ne peut savoir le comment. Au ciel le plus bas, il fait grâce de ses bienfaits. Les portes du ciel sont alors ouvertes et les invocations exaucées. Il dit: il trouvera un pardonneur, celui qui le pardon a imploré. Bien et subsistance seront donnés à celui qui un don a imploré. Ceci est rapporté par ceux dont le hadith n'est pas rejeté, que perdant et enlaidi soient ceux qui l'ont renié. L'auteur, rahimahullah ta'ala, commence donc par dire « Qul », c'est-à-dire « Dis, ô toi le sunni, celui qui s'applique à suivre la voie du livre et de la sunnah, dis avec certitude et sans hésitation, Yanzilul Jabbar, le Tout-Puissant descend, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, car Al-Jabbar est un des noms parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il descend donc chaque nuit au ciel le plus bas. Comme le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'a affirmé dans le hadith que nous avons mentionné précédemment. Il est donc obligatoire pour nous d'affirmer la descente d'Allah subhanahu wa ta'ala, car la descente fait partie de ses attributs, et nous l'affirmons d'une manière qui sied à sa grandeur et à sa majesté. Et cette descente, comme on l'a dit, elle est confirmée de manière authentique. Et elle a été mentionnée dans de multiples hadiths rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam par environ une trentaine de compagnons radiyallahu ta'ala anhum, comme l'a mentionné l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah. Il est donc obligatoire pour nous d'affirmer cet attribut pour Allah subhanahu wa ta'ala, comme son messager sallallahu alayhi wa sallam l'a affirmé. Nous disons donc, Allah descend chaque nuit lorsqu'il ne reste que le dernier tiers de la nuit. Et la descente, tout comme le reste de ses attributs, n'est pas semblable à la descente d'une créature. Mais c'est la descente d'Al-Jabbar, la descente du Seigneur de l'univers. C'est une descente qui sied à sa grandeur et à sa majesté, dont nous ne connaissons pas le comment. C'est pour cela que l'auteur, rahimahullah ta'ala, a dit « bila kaif ». On ne peut savoir le comment. Car Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas informé du comment. Donc, nous affirmons cet attribut comme il a été mentionné dans les textes. Nous y croyons avec certitude. Nous ne le renions pas. Et nous ne l'interprétons pas d'une manière contraire à son sens réel. En effet, étant donné que ce hadith est rapporté de différentes voix et qu'il est confirmé de manière authentique, qui ne prête aucun doute au sujet de son authenticité, les négateurs ont essayé de trouver une issue afin de renier cet attribut. Ils ont donc dit, ce qui est visé par le hadith, ce n'est pas la descente d'Allah, mais c'est la descente de son ordre. Et les gens de science ont dit qu'il est très simple de répondre à cette ambiguïté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit clairement que notre Seigneur descend, puis qu'il dit « Qui implore mon pardon afin que je le pardonne? Qui me demande afin que je lui donne? » Et dans certaines narrations, « Qui se repent afin que j'accepte son repentir ?» Donc, qu'est-ce qui prononce cette parole? Est-ce que l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala peut prononcer ces paroles et dire « Qui implore mon pardon afin que je le pardonne ?» Il n'y a pas de doute que ceci est insensé. Mais celui qui prononce ces paroles n'est autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. D'autres ont aussi dit que le sens de ce hadith n'est pas que Allah descend, mais un ange parmi les anges. Donc de la même manière que l'ambiguïté précédente, nous disons « Est-ce l'ange qui dit qui implore mon pardon afin que je le pardonne et qui me demande afin que je lui donne ?» Cette parole ne peut pas être prononcée par un ange. Mais elle ne peut être prononcée que par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ce n'est ni son ordre, ni un ange parmi les anges qui descend, mais c'est bien Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, nous affirmons que la descente est un des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme il est venu dans le hadith, il descend chaque nuit lorsqu'il ne reste que le dernier tiers de la nuit. Et ceci est une réalité au sujet de laquelle le croyant a la certitude. Et tu ne dois pas te laisser perturber par les wasawis et autres suggestions de ceux qui font objection à cela et qui se permettent de reprendre Allah subhanahu wa ta'ala et son messager sallallahu alayhi wa sallam. Car ceux qui renient cet attribut sous divers prétextes, c'est comme s'ils disaient qu'il ne convient pas à Allah subhanahu wa ta'ala de descendre. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a affirmé cela. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit « Notre Seigneur descend !» Et eux, ils disent « Non, il ne descend pas. » Et ils renient cet attribut. Donc, c'est comme s'ils prétendaient connaître Allah subhanahu wa ta'ala mieux que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne le connaissait. Donc, en plus d'être une croyance erronée, il y a en cela un mauvais comportement envers Allah subhanahu wa ta'ala et un mauvais comportement à l'égard de la sunna authentique du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous dit « Et dit chaque nuit, le Tout-Puissant descend. » Ce que l'on a traduit par « le Tout-Puissant » est un sens rapproché du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Jabbar. Mais Al-Jabbar, en réalité, il a différentes significations. Parmi ces significations, il y a que c'est celui qui soulage et secourt ses serviteurs en détresse. Ceci est un sens d'Al-Jabbar. Également, Al-Jabbar, il a le sens de celui dont les décrets universels sont exécutés sur ses serviteurs et qu'ils ne peuvent pas y échapper. En effet, personne ne peut repousser le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci est un sens de son nom Al-Jabbar. Et également parmi les sens d'Al-Jabbar, il y a celui qui est élevé. Et comme vous le savez, Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus des cieux et au-dessus de ses serviteurs. Comme il le dit subhanahu wa ta'ala au verset 18 de Surat Al-An'am, وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ. Il est Al-Qahir, celui qui domine, le dominateur suprême, au-dessus de ses serviteurs. Et l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous précise bien que nous devons affirmer cela, mais que nous ne pouvons pas savoir le comment. Car seul Allah subhanahu wa ta'ala sait la manière par laquelle il descend. Quant à nous, nous ne pouvons affirmer que ce qui est venu dans les textes. Et il ne nous est pas demandé de nous interroger à ce sujet. Et ceci est une règle générale qui concerne l'ensemble des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu te dois de les affirmer tels qu'ils sont venus dans les textes, sans négation, sans altération, sans assimilation et sans chercher à savoir le comment. Tu ne dois pas te poser de questions à ce sujet, ni interroger à ce sujet, ni réfléchir à ce sujet. Cela ne t'est pas demandé. Dis simplement, comme il est venu dans les textes, Allah descend. Et cela est suffisant. On a déjà vu dans des cours précédents la célèbre parole de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, lorsqu'il a été interrogé au sujet d'Al-Istiwa, et qu'un homme lui a dit Ar-Rahman ala l'arsh istawa, le tout miséricordieux, s'est établi au-dessus du trône. Comment s'est-il établi? Kayfa istawa? Alors l'imam Malik fut pris de colère. Il lui dit Al-Istiwa ma'loum. L'Istiwa, c'est une chose connue. Wal-Kayf majhoul. Le comment est inconnu. Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas informés à ce sujet. Al-Imanu bihi wajib. La foi en cela est obligatoire. Et le fait d'interroger à ce sujet est une innovation. L'imam Malik, rahimahullah ta'ala, ordonna de faire sortir cet homme et lui dit: Je vois que tu es un homme mauvais. Voyez comment les grands imams de l'islam, ils fermaient la porte à ce genre d'ambiguïté. Et les gens de science ont dit que toute chose au sujet de laquelle les compagnons, radiyallahu ta'ala, n'ont pas interrogé, alors il n'y a aucun besoin pour nous à interroger à ce sujet. Car s'il y avait un bien en cela, ou bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam les en aurait informés, ou alors ils auraient interrogé à ce sujet afin que l'on puisse avoir une science à ce sujet. Car tout ce qui est profitable pour nous, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a transmis. Donc de la même manière en ce qui concerne l'attribut de la descente, nous disons la descente est connue, on sait ce que veut dire le mot descente. Le comment nous est inconnu, cela ne nous a pas été décrit dans les textes. Avoir foi en cela est obligatoire. Et interroger à ce sujet, au sujet du comment, est une innovation. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous dit « Ila tabaqid dunya » Il descend au ciel le plus bas. Et ce car les cieux sont au nombre de sept. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre, au verset 15 de Sourate Nuh « Alam taraw kayfa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa » N'avez-vous pas vu comment Allah a créé sept cieux superposés, c'est-à-dire qu'ils sont les uns sur les autres. Et Allah subhanahu wa ta'ala descend comme il veut au ciel le plus bas, c'est-à-dire le ciel le plus proche de la terre. Ensuite, il dit, rahimahullah, yamunnu bifadli. Il fait grâce de ses bienfaits. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il descend au ciel le plus bas, c'est pour faire grâce de ses bienfaits. En effet, comme on l'a vu dans le hadith, il dit, y a-t-il quelqu'un pour me demander afin que je lui donne? Y a-t-il quelqu'un pour implorer mon pardon afin que je lui pardonne? Y a-t-il quelqu'un pour se repentir afin que j'accepte son repentir? Et tout ceci fait partie de la grâce et des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il propose à ses serviteurs de par sa générosité et sa clémence et sa miséricorde. Et c'est pour cela qu'il est recommandé pour le musulman de se lever en fin de nuit, lorsqu'il ne reste que le dernier tiers de la nuit. Il est recommandé d'être réveillé à ce moment, afin de prier, d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala et d'implorer son pardon. Car c'est un moment très méritoire. Un moment durant lequel les invocations sont exaucées. Un moment durant lequel nombre de serviteurs sont pardonnés. Un moment durant lequel le repentir est accepté. C'est donc un moment duquel il ne convient pas aux croyants en réalité de se priver. Et nombreux sont ceux parmi nous qui malheureusement se privent de ce grand bienfait et ne profitent pas de ces grâces et ces bienfaits immenses qu'Allah subhanahu wa ta'ala propose à ce moment-là à ses serviteurs. Pire encore, certains passent leur nuit éveillée dans des futilités ou des péchés, puis lorsque vient la fin de la nuit, ils vont se coucher. Ils vont donc dormir dans le moment qui est le plus méritoire. Et il se peut même qu'ils dorment au moment de la prière obligatoire du Fajr ou al-Iyadu Billah. Il n'y a pas de doute que ceci est une grande privation. Il est donc important pour les musulmans de faire des efforts afin de dormir tôt. Car si tu te couches tard et que tu n'es fait pas l'effort de dormir tôt, il y a alors peu d'espoir que tu te lèves à ce moment. Mais celui qui s'habitue à dormir tôt, alors ceci deviendra pour lui une habitude qu'il accomplira avec facilité. et ainsi il pourra se lever en fin de nuit, inshallah ta'ala. Mais celui qui s'habitue au sommeil, celui qui s'habitue à la paresse, celui qui s'habitue à se soumettre au désir de son âme qui l'appelle à la paresse, à la fainéantise et à rester dans son lit, alors celui-ci, il sera même difficile pour lui de se lever pour la prière d'El Fajr. On ne parle même pas du fait de se lever durant le dernier tiers de la nuit. La simple prière d'El Fajr, qui est pour lui une obligation, il aura du mal à se lever. Car il a le sommeil lourd, car il a habitué son âme à la paresse, à la fainéantise, wal'iyadu billah. Quoi qu'il en soit, il ne convient pas aux musulmans de se priver lui-même de ces occasions immenses de pardon et de miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci est un appel divin qui a lieu chaque soir. Chaque nuit, Allah subhanahu wa ta'ala descend au ciel le plus bas. Il ne convient donc pas aux musulmans de laisser toutes ces opportunités lui échapper tout au long de sa vie. Médite sur les caractéristiques immenses par lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala a décrit ses serviteurs pieux. Il dit subhanahu wa ta'ala au verset 17 et 18 de Surat al-Dhariyat: Kanu qalilan min al-layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Ils dormaient peu la nuit. Ils dormaient peu la nuit. Pourquoi ils dormaient peu la nuit? Est-ce qu'ils dormaient peu parce que ils passaient leur nuit dans des futilités, devant Internet, devant la télé, dans l'amusement ou autre? Non. Ils dormaient peu la nuit car ils passaient leur nuit dans l'adoration, dans la prière, dans le rappel d'Allah, la lecture du Coran, l'étude de la science. Wabil asharihum yastaghfirun. Et aux dernières heures de la nuit, ils imploraient le pardon. Ils imploraient le pardon d'Allah. Pourquoi? Car ils profitaient de ce moment propice à l'imploration du pardon. Car Allah subhanahu wa ta'ala descend au ciel le plus bas et dit: Y a-t-il quelqu'un pour implorer mon pardon afin que je lui pardonne? Et Allah subhanahu wa ta'ala dit au verset 17 de Surat Ali Imran, décrivant ses serviteurs vertueux: Wal mustaghfirin bil ashar. Et ceux qui implorent pardon juste avant l'aube. Juste avant l'aube. Ils se lèvent avant la prière de l'aube pour implorer le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les gens de science ont dit que ces versets nous prouvent que parmi les œuvres fortement recommandées en fin de nuit, il y a l'imploration du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que ceci fait partie des habitudes des serviteurs vertueux. Comment un serviteur qui n'est pas à l'abri des péchés mais qui au contraire en commet quotidiennement, peut-il alors laisser ce moment propice lui échapper chaque nuit? Et ce tout au long de sa vie. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner nos manquements et de nous aider à lutter contre nos âmes incitatrices au mal. L'auteur, rahimahullah ta'ala, dit ensuite: فَتُفْرَجُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَتُفْتَحُ. Les portes du ciel sont alors ouvertes et les invocations exaucées. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala descend au ciel le plus bas, les portes du ciel sont alors ouvertes. C'est-à-dire les portes de l'exaucement. Les invocations sont exaucées. C'est pour cela qu'il convient aux musulmans de se lever à ce moment-là, afin d'implorer le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, afin de se repentir, afin de demander à Allah subhanahu wa ta'ala ce qu'il désire parmi les bienfaits de ce bas monde et de l'au-delà. Il dit ensuite: يقول ألا مستغفر يلقى غافرا. Il trouvera un pardonneur, celui qui le pardon a imploré. Y a-t-il quelqu'un qui implore le pardon afin qu'il trouve un pardonneur? Comme il est venu dans le hadith: qui implore mon pardon afin que je lui pardonne? ومستمنح خيرا. Y a-t-il quelqu'un qui implore un don, وَرِزْقًا فَيُمْنَحُ, ainsi qu'une subsistance afin que celle-ci lui soit accordée? Et ceci est tiré de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith qui nous dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit au moment où il descend au ciel le plus bas: y a-t-il quelqu'un pour me demander afin que je lui donne? Quelle que soit la chose dont tu as besoin, parmi les bienfaits de ce bas monde et de l'au-delà, adresse tes demandes à Allah subhanahu wa ta'ala dans ce moment propice à l'exaucement des invocations. Et multiplie les invocations durant cette heure. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit: y a-t-il quelqu'un pour me demander afin que je lui donne? Et Allah subhanahu wa ta'ala est proche de ses serviteurs. Il répond aux invocations. Et il accepte le repentir. Et il pardonne les péchés subhanahu wa ta'ala à tout moment. Toutefois, il y a des moments particuliers durant lesquels l'exaucement est plus propice. Et durant lesquels l'exaucement est plus abondant. À l'exemple du dernier tiers de la nuit. Également, l'heure du vendredi durant laquelle les invocations sont exaucées. Et également, il y a des situations durant lesquelles Le serviteur est plus à même d'être exaucé, comme lors de sa prosternation. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le moment durant lequel le serviteur est le plus proche de son Seigneur, c'est lorsqu'il est prosterné. Alors multipliez-y les invocations. Également lorsque tu es en voyage. L'invocation du voyageur est exaucée également lorsque le serviteur est dans une situation de détresse. N'est-ce pas lui qui répond à l'angoissé lorsqu'il l'invoque? Il y a donc des moments et des situations durant lesquels l'exaucement est plus propice et plus abondant. Mais sinon, Allah subhanahu wa ta'ala répond aux invocations de ses serviteurs à tout moment et en toute situation. Il pardonne, il donne, il répond aux invocations, il accepte le repentir. Il n'y a pas de moment pour te repentir. Tu ne dois pas forcément attendre un moment particulier, mais tu dois t'empresser. Immédiatement après être tombé dans un péché, t'empresser de te repentir, t'empresser de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala, t'empresser d'implorer son pardon. N'attends pas un moment particulier, mais sache que durant le dernier tiers de la nuit, c'est un moment plus propice à l'exaucement des invocations, à l'acceptation du repentir, et ainsi de suite. Lorsqu'on sait cela, on se pose la question: comment peut-on en réalité se détourner de ce grand bienfait et dormir à ce moment? Ce sommeil duquel, en réalité, on ne tire que très peu de profit. Pire encore, comment un croyant peut-il perdre son temps sur Internet ou sur les réseaux sociaux aujourd'hui, sur Facebook, Twitter, Instagram ou je ne sais quoi, pendant des heures et des heures, voire même des nuits entières ou des journées entières, avec le regard fixé sur cet écran sans qu'il ne bouge, et être insouciant de ces moments durant lesquels Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa grâce et sa générosité, l'appelle au repentir et à l'imploration du pardon. Ceci provient en réalité de l'insouciance et de la dureté du cœur, et de la faiblesse de notre foi. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous assister. Tu dois être conscient que ce bien qui t'est proposé par Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un bien qui est éternel. C'est un bien que tu vas retrouver dans l'au-delà. Donc, comment peux-tu te détourner de l'appel de ton Seigneur subhanahu wa ta'ala pour des choses futiles parmi les futilités de ce bas monde qui ne te sont d'aucun profit ni ici-bas ni dans l'au-delà? Et en parallèle, te détourner d'Allah, te détourner de l'adoration d'Allah, te détourner de la grâce et des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala alors que tu ne peux pas te passer d'Allah. Ne serait-ce qu'un instant. Il n'est pas possible pour toi de te passer de ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. Car tout bienfait dont tu jouis dans ce bas monde, c'est lui qui te l'accorde. Bienfait de la vue, le bienfait de la vie, le bienfait de l'ouïe, la nourriture, la boisson, tout ceci provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et plus immense encore, le bienfait de l'islam, le bienfait du suivi de la sunna. Malgré cela, beaucoup de serviteurs sont ingrats et ne sont pas reconnaissants. Malgré cela, beaucoup de serviteurs ne sont pas conscients de leurs manquements et de leurs défauts. Et c'est pour cela qu'ils se détournent de ces moments immenses et n'en profitent pas. Imaginez un seul instant qu'on nous dise qu'il y a une heure durant la nuit où de l'argent est distribué. Imaginez-vous qu'on vous dise: si vous allez à telle adresse, à 3 heures du matin, vous y trouverez une personne qui distribue à chaque personne qui vient 100 euros. Il y aurait la queue ou il n'y aurait pas la queue? Combien serons-nous à nous y rendre? Je me souviens avoir donné un cours un jour dans une mosquée et avoir donné cet exemple et avoir demandé aux frères combien de personnes s'y rendraient. Un des frères présents a répondu avec le sourire: tous les gens de la mosquée seraient présents. Pourquoi? Car nos cœurs sont attachés au bien de ce bas monde. Ceci est une preuve que nos cœurs sont attachés au bien de ce bas monde. C'est pour cela que lorsque les biens de ce bas monde nous sont proposés, on fait de grands efforts pour les obtenir. Regardez les gens au moment des soldes. Comment ils font la queue avant l'ouverture des magasins, devant les grandes enseignes, espérant pouvoir acheter certaines marchandises avec une petite réduction. Regardez parfois lorsqu'il y a certaines promotions, comment les gens se battent pour acheter des produits qui sont des produits sans aucune importance, des produits éphémères, des produits consommables qui ne vont pas durer, simplement pour économiser quelques euros. Ils sont prêts à faire la queue des heures et des heures, puis se concurrencer, se bousculer et se battre même. Pourquoi? Pour gagner quelques euros. Et tout cela pour des biens éphémères de ce bas monde. Il se peut même que certains fassent cela pour des choses qui leur sont nuisibles. Qu'ils fassent la queue la nuit, sous la pluie, dans le froid, pourquoi? Parfois pour assister à des concerts ou des compétitions sportives, wal'iyadu billah. Ils sont prêts à se priver de sommeil, à se priver du confort de leur maison et de leur lit, à passer la nuit dehors. Pourquoi? Pour une chose qui ne leur est profitable ni ici-bas ni dans l'au-delà. Au contraire, cela leur est nuisible. Et pendant ce temps, le croyant, C'est avec certitude que son Seigneur descend chaque nuit au ciel le plus bas. Que son Seigneur chaque nuit dit: Y a-t-il quelqu'un pour implorer mon pardon afin que je le pardonne? Il fait des péchés la journée, mais il dort dans l'insouciance. Allah subhanahu wa ta'ala dit chaque nuit: Y a-t-il quelqu'un pour me demander afin que je lui donne? Chacun d'entre nous a des besoins. Chacun d'entre nous espère des choses parmi les choses de ce bas monde et de l'au-delà. Mais notre âme préfère le sommeil. Y a-t-il quelqu'un pour se repentir afin que j'accepte son repentir? Où en sommes-nous de cela? Et chacun d'entre nous est plus connaisseur de sa propre situation. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner et de nous aider contre nous-mêmes. Regardez ces gens pour des biens vils de ce bas monde ce qu'ils sont prêts à faire. Parfois même pour un bien qu'ils ne sont même pas sûrs d'obtenir. Il fait la queue devant une grande enseigne pendant des heures et des heures dans le froid, puis il rentre et il ressort sans rien acheter car il n'a pas trouvé le produit qu'il recherchait. Mais il a fait cet effort-là. Et toi, tu sais avec certitude que le Seigneur de l'univers te propose sa grâce et ses bienfaits chaque nuit, mais tu restes sous tes couvertures à dormir. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste et nous aide à prendre le dessus sur nos âmes incitatrices au mal. Certaines personnes pensent qu'en se levant trop tôt, parfois, ils vont être fatigués, qu'ils ne vont pas réussir à accomplir leurs obligations, qu'ils ne pourront ainsi pas s'atteler à leurs tâches quotidiennes. Mais tu dois savoir qu'il ne t'est pas demandé de te lever durant des heures et des heures. Même si tu ne te lèves que quelques minutes avant l'aube, même 5 minutes, 5 minutes avant le fajr, même si durant ces 5 minutes, tu restes dans ton lit, sous tes couvertures, mais que tu te réveilles pour implorer le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu mets ton réveil avant l'aube, puis tu consacres quelques minutes à dire Astaghfirullah, Astaghfirullah wa atubu ilayh, Astaghfirullah wa atubu ilayh. Et tu fais des invocations. Tu adresses tes demandes à Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu fais cela, tu auras profité de ce bienfait, bi'idhnillahi ta'ala. Donc tu vois que cela ne te demande pas en réalité de grands efforts. Bien sûr, si tu te lèves plus tôt, que tu arrives à te lever plus tôt, à accomplir quelques unités de prière, il n'y a pas de doute que ceci est un bien immense et que c'est encore mieux et préférable. Tu auras bien plus de mérite à faire cela. Mais si tu ne peux pas, que tes tâches quotidiennes ne te le permettent pas, ou que tu as des difficultés, alors essaye au moins de profiter de ces quelques minutes pour implorer le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, te repentir et lui adresser tes demandes afin qu'il t'accorde de sa grâce et de ses bienfaits. Donc ne néglige pas cette occasion immense d'obtenir le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Surtout, surtout, si tu es encore jeune, que tu es au meilleur de ta force et au meilleur de ta santé. Car il se peut que vienne un temps durant lequel tu ne pourras plus profiter de cela. Il se peut que ta santé ne te le permettra pas. Il se peut que tu n'auras pas la force pour faire cela. Donc, tant que tu en as encore l'occasion, profite de ces moments. Profite de ces moments pour te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'implorer afin qu'il t'accorde de sa grâce et de ses bienfaits. Et ne laisse pas ces occasions t'échapper. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, termine à ce sujet en disant: Rawa dhaka qawmun la yuraddu hadithuhum, ala khaba qawmun kadhabuhum wa qubbihu. Ceci est rapporté par ceux dont le hadith n'est pas rejeté. Ceci, c'est-à-dire le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala descend chaque nuit au ciel le plus bas. Cela est rapporté par ceux dont le hadith n'est pas rejeté. C'est-à-dire que c'est un hadith authentique, rapporté par nombre de compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il n'est donc pas possible de renier cette information. Ensuite, il dit: Ala khaba qawmun kadhabuhum wa qubbihu. Que soient perdants et enlaidis ceux qui l'ont renié. Donc ici, il invoque contre ceux qui renient l'attribut de la descente. Qu'ils soient perdants et qu'ils soient enlaidis. Car ils ont renié un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala confirmé dans un hadith authentique du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et à leur tête, al-Jahmiya al-Mu'tazila. Et tous ceux qui sont venus après eux et qui ont emprunté leur voie dans la négation des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ceux qui ont ouvert cette voie de mal, ce sont les Jahmiya, puis les Mu'tazila. Et en ayant fait cela, en ayant ouvert cette porte de mal, ils portent le péché de tous ceux qui sont venus après eux et qui ont emprunté leur voie. Comme il est venu dans le hadith authentique, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Celui qui appelle un égarement, il portera son péché, ainsi que les péchés de tous ceux qui l'ont suivi sur celui-ci, sans que cela ne diminue en rien de leur péché. Vous voyez à travers cela la gravité d'appeler au mal, la gravité d'appeler à l'égarement. Le musulman, il doit être sur ses gardes quant à cela. Lorsqu'une personne propage un mal, appelle à un mal, est un modèle de mal, elle a son péché également, le péché de ceux qui la suivent sur ce péché. Car c'est lui qui les a leurrés, c'est lui qui leur a montré le mauvais exemple. Il leur a ouvert la porte du mal. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre, au verset 25 de Surat An-Nahl, ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. Qu'ils portent donc au jour de la résurrection tous les fardeaux de leurs propres œuvres, ainsi qu'une partie des fardeaux de ceux qu'ils égarent sans le savoir, combien est mauvais le fardeau qu'ils portent. Combien est mauvais le fardeau que portent ceux qui appellent au mal, ceux qui appellent au péché, ceux qui appellent à l'innovation, ceux qui appellent à l'égarement. Ils portent le péché de leurs œuvres, plus le péché de tous ceux qui les suivent sur cela. On voit donc qu'il y a en cela un grand danger. Et médite sur la situation de beaucoup de gens aujourd'hui, notamment avec les réseaux sociaux, où certaines personnes atteignent une certaine célébrité, entre guillemets, et sont suivies par des milliers et des milliers, voire des millions de personnes. Et ils sont satisfaits de cela. Et qu'est-ce qu'ils font à travers leur compte? Des appels à l'égarement. Il les appelle au péché, il les appelle à des choses contraires à notre noble religion et ainsi de suite. Plus il a de suiveurs, plus il se réjouit, mais plus ses péchés augmentent en réalité. Donc le musulman, il doit prendre garde à cela et faire attention à ne pas être un exemple de mal, mais plutôt à être un modèle de bien, à appeler au bien et prendre garde à ne pas appeler au mal ou au suivi des passions ou des choses qui s'opposent à notre religion, même si cela plaît aux gens. Il y a certaines personnes, ils disent oui, mais je fais cela, j'appelle à cela, car cela plaît aux gens. C'est cela que les gens aiment. Subhanallah. Mais est-ce que c'est cela que ton Seigneur aime? Est-ce que c'est cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime? Est-ce que c'est à cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé? Je fais cela parce que c'est ce que les gens aiment. Cela plaît aux gens. Donc, son objectif est de satisfaire les gens. Il propage donc des choses contraires à la religion. Il amasse ainsi son péché. Et le péché de tous ceux qui le suivent dans cet égarement, l'ayadu billah. On a donc terminé concernant cet attribut, l'attribut de la descente. Et vous avez vu à travers ce cours que la science des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas une science sans importance comme essayent de le faire croire nombre de prêcheurs à l'égarement aujourd'hui, et qui prétendent que les gens n'ont pas besoin d'entendre cela, mais qu'il faudrait plutôt les appeler au bon comportement, à la spiritualité ou je ne sais quoi. Alors que le bon comportement le plus important, c'est le bon comportement à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la spiritualité, tu ne la trouveras qu'en ayant une croyance authentique. Celui qui renie cet attribut, l'attribut de la descente, comment va-t-il pouvoir profiter de ce moment immense durant le dernier tiers de la nuit? Comment va-t-il pouvoir profiter des grâces et des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala durant le dernier tiers de la nuit? Alors que celui qui a une croyance authentique, qui croit avec certitude en ses hadiths, qui sait pertinemment que son Seigneur subhanahu wa ta'ala descend. Ceci va faire monter sa foi. Et ceci va l'encourager et le motiver à profiter de ce moment immense et ne pas laisser cette occasion lui échapper. Voyez donc que plus la personne connaît Allah subhanahu wa ta'ala, connaît ses noms, connaît ses attributs, plus sa foi augmentera et plus elle fera des œuvres pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. On va donc s'arrêter là pour ce soir. Et on verra dans le prochain cours, inshallah ta'ala, les vers suivants, dans lesquels l'auteur, rahimahullah ta'ala, a parlé du mérite des compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, wa sallallahu sallama wa barak, ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin, wa barakallahu fikum.